Voici la section de Bourges et Duchère de la Ligue des droits de l'homme.
Nous voici donc pour notre rencontre mensuelle. C'est la Ligue des droits de l'homme qui s'adresse à vous. Et je crois qu'il ne serait pas inutile de faire un petit point rapide d'actualité en disant que la Ligue a auditionné le président de l'Observatoire des inégalités, qui s'appelle M. Noam Leandri. Cet observatoire est une association absolument indépendante du gouvernement et de tout parti politique et de toute organisation syndicale, et donc s'essaye à une analyse objective de la situation économique. Il y a quelques jours maintenant, le président de la République s'était exprimé et par rapport à la crise sanitaire et la sortie de cette crise sanitaire, il a dépassé ce sujet et est intervenu pour dire que la réforme des retraites était repoussée, mais l'objectif n'est pas changé, et qu'il était nécessaire de travailler plus, et que les chômeurs qui étaient au chômage, eh bien, il fallait qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts pour trouver du boulot, et que par conséquent, il était tout à fait légitime de faire cette réforme du chômage qui est désormais appliquée et qui fait qu'en moyenne, les indemnisations vont baisser de 17%. Or, l'Observatoire des inégalités observe un rebond d'inégalités au cours des dernières années, la France se plaçant à un niveau très moyen en Europe. L'Observatoire constate que la sortie de la pauvreté ne va pas être possible seulement avec la prime d'activité pour les travailleurs modestes, les fameux 100 euros énergétiques comme on les a appelés, que le tiers des dépenses des plus modestes sont des dépenses contraintes, prix des loyers, énergie, etc., et que ça pèse d'une manière croissante et de plus en plus forte sur les ménages depuis très longtemps, depuis les années 60. Et la crise du Covid a généré une baisse des revenus pour un cinquième de la population. Donc il y a une dégradation de la situation qui existait avant la crise, mais qui s'est aggravée avec la crise, assez fortement accrue. Donc c'est pas tout à fait le discours que l'on entend de la part du gouvernement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aline.
Ça me paraît évident. Et il faut faire un effort pour essayer de faire prendre conscience qu'entre ce que l'on entend et la réalité, il y a un monde important, et c'est une fois que les informations fortes auront été présentées, c'est l'objet du travail que nous avons fait ces derniers mois pour aller en direction de la population, en direction plus exactement des citoyens. Voilà.
Chercher le contact, aller vers nos concitoyens pour
échanger.
Engager la discussion.
Nous sommes tous sur le même plan. Il n'y a pas des premiers de cordée. Nous sommes tous des premiers de cordée.
Alors, il y a un deuxième point d'actualité qui est une réflexion plus générale sur la situation de ce que l'on pourrait appeler la pré-campagne, sinon même la campagne des élections présidentielles. Et dans son dernier numéro, Ligue des droits de l'homme information, le bulletin national mensuel de la Ligue, son président, Malik Salemkour, indique qu'il y a une certaine inquiétude par rapport à ce polémiste Éric Zemmour qui semble focaliser les débats publics et en déversant, dit-il, chaque jour dans les médias fascinés Et il s'agit sans doute des médias mainstream, des médias qu'on appelle les chaînes en continu, d'information en continu, sont déversés tous les jours, dans ces médias fascinés, un discours de haine, un discours sexiste, un discours raciste, un discours xénophobe, dans la pire tradition de l'extrême droite fasciste.
Discours mensonger.
Et un discours mensonger. Il s'agit de trouver des dérivatifs à la crise économique et sociale. Il fut un temps dans les années 30, c'était les Juifs, aujourd'hui c'est les étrangers, c'est les migrants, c'est les réfugiés, etc. Et M. Zemmour travaille à coups de provocation et de révisionnisme historique. Nous étions tous les deux, Aline et moi, professeurs d'histoire. Les bras nous en tombent quand on entend les énormités sorties par M. Zemmour, qui rêve, en fait, d'un État totalitaire et nationaliste. Il est parti aussi en croisade contre les femmes, qui aspirent à l'égalité, des oppositions citoyennes et les minorités qui défendent leurs droits, et même la presse, qui s'essaye, du moins les organes de presse qui s'essayent à la libre critique. Or, le problème n'est pas seulement ce que Zemmour dit et les chaînes d'information qui lui ouvrent tous les jours le micro. Le problème, c'est que le gouvernement, qui devrait veiller à la paix civile et à l'état de droit face à ces menaces de division, choisit de donner des gages à ces logiques mortifères en mettant à mal les libertés fondamentales de tous et toutes au nom de la lutte contre le terrorisme, contre l'immigration irrégulière ou ce qu'il décrète comme séparatisme. Le gouvernement devrait dénoncer le séparatisme de Zemmour plutôt que de courir après.
C'est évident. Bon, mais c'est pour ça que on a pris notre bâton de pèlerin et on a comme projet d'aller rencontrer, ben, ma foi, les personnes qui sont en demande d'informations réelles. Donc, c'est l'objet.
Justement, peut-être tu peux présenter le travail que nous avons fait et annoncer que nous avons à disposition du public 4 fiches sur 4 thèmes.
Oui, ben, c'est ce que je vais faire. Bon, Michel a évoqué la réalisation de fiches. Elle a été réalisée par les LDH, mais aussi par l'Association pour une constituante. Nous avons ressenti le besoin d'échange avec les citoyens sur leurs préoccupations quotidiennes, leur vision de l'avenir pour eux et leurs enfants. Ils entendent ou ils ne lisent dans leur majorité des journaux que des informations émotionnelles ou des résultats de sondage ou éventuellement des affirmations mensongères, allant jusqu'à la réhabilitation de Pétain et du régime de Vichy, et de l'amalgame entre Pétain et De Gaulle le 9 novembre, quand quelqu'un a quand même réussi à faire ce grand écart, Pétain et De Gaulle, c'est la même chose. Alors, ce qu'on trouve d'important, c'est la notion d'échange. En s'adressant aux citoyens, en échangeant avec eux, c'est reconnaître leur dignité et que chacun est capable de comprendre des informations complexes. Nous ne sommes pas cantonnés à se déterminer politiquement à partir de faits divers, souvent émotionnels. Donc il y a cette idée d'échange, cette idée que nous sommes tous citoyens capables de comprendre quand l'information est correctement présentée. Alors, les thèmes qu'on a retenus expriment les préoccupations actuelles. On a retenu la transition écologique, par exemple. On a reconnu le besoin de justice économique et sociale. On a retenu les préoccupations des choix de la politique extérieure. Alors, bon, maintenant, je pense qu'on va les aborder.
C'est-à-dire que, en fait, dans notre démarche que tu viens d'exposer, nous allons partir à la rencontre de nos concitoyens sur ces thèmes, mais en se référant aux grands principes constitutionnels, et ce que l'on appelle le bloc constitutionnel, qui regroupe la Constitution de 1958, bien sûr, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration universelle de 1948 et la Déclaration de 1789, la Déclaration des droits de 1789. Et l'objectif est que sur notre argumentation se réfère à ces articles constitutionnels dont nous pensons qu'ils sont aujourd'hui méconnus et volontairement de la part des dirigeants actuels. Et pas seulement, c'était aussi le cas auparavant, et peut-être moins.
Oui, je pense que quand même la situation s'est beaucoup dégradée.
S'est beaucoup dégradée.
Beaucoup dégradée, et on semble complètement oublier que nous avons des textes qui devraient être
appliqués.
La base des mesures, des lois, et que même, non seulement ne s'est pas appliqué, mais
c'est bafoué.
C'est bafoué. Il y a des condamnations qui viennent, par exemple, de l'ONU. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance.
C'est caché. Ça disparaît. Donc, peut-être que le temps passant, aujourd'hui, on pourrait aussi, ça serait au fond le troisième point, après les deux premiers qui concernaient l'actualité, le troisième point reste d'actualité, puisque il y a quelques jours, c'était le 11 novembre, s'est déroulée la journée de la paix. Nous avons, pour notre part, avec l'Association pour une Constituante, beaucoup réfléchi à la proposition que faire pour une démocratie élargie en politique extérieure, européenne et migratoire. Peut-être peut-on rappeler plusieurs choses quand même avant d'aborder, au fond, cette fiche qui pour nous est la quatrième pour une démocratie élargie aux affaires extérieures et aussi militaire derrière l'armement, etc. On s'aperçoit que la guerre n'a jamais été aussi présente sur la planète, que quatre coins du siècle qui est entamé, qui vient d'être entamé depuis 20 ans, le virus des guerres circule et mute. On constate qu'il n'y a jamais eu autant de murs construits, de barrières construites entre les peuples et sur les frontières depuis la chute du mur de Berlin. Et que, au fond, le repli sur soi, la xénophobie, l'intolérance, tout ça, ça crée des ressentiments. Et ces ressentiments créent des souffrances, d'amertume, des rancunes qui peuvent conduire au pire, et y compris au terrorisme. Et qu'il serait donc urgent de réfléchir à cultiver la paix et les moyens d'essayer de la construire.
C'est évident que cette politique extérieure représente une préoccupation fondamentale et que ces choix entraînent des conséquences pour nous, individuellement, chacun. Par exemple, elle a des conséquences sur les finances de l'État. Et l'argent qui est utilisé à des causes dont on peut remettre en cause l'intérêt réel, eh bien, c'est de l'argent en moins pour une politique sociale, par exemple, ou pour le redressement, le redressement de l'hôpital. Il est aussi préoccupant que le domaine réservé du président de la République peut entraîner des choix qui favorisent les tensions entre pays et qui peuvent entraîner des guerres, non pas chez nous, mais et dont on subira les conséquences parce qu'elles remettront sur un plan international en cause la paix.
Tu viens de parler du domaine réservé. comme s'il était établi que les questions de politique extérieure, européenne même, ou migratoire, soient le domaine réservé du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire, domaine réservé ? Ben, ça veut dire, en creux, qu'il n'y a aucun exercice de la souveraineté populaire en cette matière, et que cela est d'ailleurs contraire à la Constitution, puisque c'est le peuple souverain qui doit, au fond, être le décideur. Donc ça imposerait, pour sortir de cette situation du domaine réservé en matière extérieure, que tout accord international soit ratifié soit par le Parlement, soit par référendum. Et un référendum devrait, à nos yeux, être au moins obligatoire pour les traités ou les accords impliquant une possibilité d'intervention militaire ou un abandon de souveraineté, traités européens internationaux, voire accords commerciaux. Ça supposerait la fin du domaine réservé du président de la République, et ça s'inscrirait beaucoup mieux dans les principes constitutionnels que ce n'est le cas aujourd'hui, que le traité d'interdiction des armes nucléaires soit respecté, qu'aucune de vente d'armes ne soit secrète. On a parlé là il n'y a pas longtemps du contrat avec l'Australie. Ça supposerait que le budget militaire soit réellement contrôlé par le Parlement et ne soit plus, comme c'est souvent le cas, décidé par le président et ses experts en nous mettant devant le fait accompli. Et enfin, et ça nous paraît très important, ça supposerait, pour l'exercice de la souveraineté populaire en matière de politique extérieure, que les industries d'armement soient nationalisées, que les ventes d'armes... Pourquoi ? Parce que les ventes d'armes ont des conséquences trop importantes. Par exemple, on vend des armes à l'Arabie Saoudite...
Qui
les revendent, et parfois à des réseaux terroristes, et qui bombardent au Yémen. Bien que le gouvernement français parle à la voix de Mme Parly et dit que non, elle n'était pas utilisée. Tu parles.
Aside.
En matière de politique étrangère, extérieure, européenne, il y a aussi les questions de politique migratoire. Pour l'application du droit international, on est loin d'être dans le coup en France. Aline.
Moi je pense qu'actuellement, la politique extérieure, entre autres, est conçue pour répondre à, disons, des objectifs électoraux. Bon, le grand thème, c'est fermons nos frontières, tout le monde, tous les migrants sont dangereux. Bon, je pense qu'on peut, à certains moments, rappeler quel est le droit national ou le droit international et prendre des mesures. Qui ne sont pas obligatoirement dans l'air du temps parce qu'on a été politiquement conditionné par des gens qui veulent faire passer leur idée. On peut se souvenir que la peine de mort a été abandonnée en France alors que la majorité des Français n'étaient pas favorables à cette mesure. Bon, il faut avoir le courage de rappeler qu'il y a un droit international et que la liberté de circulation est un droit. Il y a la liberté de circulation des capitaux, ça fonctionne bien. Par contre, la liberté de circulation des hommes inscrite dans tous les textes ou constitutionnels ou internationaux, on l'oublie.
On oublie, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on n'applique pas et qu'on sait qu'on n'applique pas. Nos gouvernants savent qu'ils n'appliquent pas. Mais on peut rappeler, la France en est signataire et c'est même en France que cela a été mis noir sur blanc. Les articles 13 et 14 de la Déclaration universelle de 1948, je cite, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Et puis, l'article 14, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Quel est le résultat de la non-application ? Le résultat de la non-application par la France, qui est globalement l'un des pays les plus riches de la planète, et qui aujourd'hui, comme beaucoup d'États européens, se barricadent ou se ferment, cultivent le rejet des autres, sans doute pour des raisons électorales, en croyant qu'on flatte une certaine forme d'opinion publique qui est manipulée par l'extrême droite. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, et elle a aussi été dénoncée par l'Organisation des Nations Unies. Et ces condamnations sont très concrètes. Elles portent sur la rétention prolongée, y compris des mineurs isolés, les refoulements illégaux de personnes en danger et les violences policières. Quand on dit refoulement illégaux de personnes en danger, c'est le refoulement aux frontières. Les violences policières vont avec. C'est ce qui explique que des préfets de départements frontaliers, notamment les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes, ont été mis en examen pour des refus de l'application des textes qu'on vient de citer. Au fond, il n'y a que la solidarité dans le respect du droit qui peut assurer la paix. S'il n'y a pas de respect du droit, s'il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas de respect de ce droit, il n'y a pas de solidarité, c'est la jungle. Voilà où on irait avec les Zemmour et compagnie.
D'autant que pour l'intérêt de la France, l'ouverture de nos frontières sur le plan économique ne peut qu'être positive, étant donné les besoins de l'économie française sur le plan de la main-d'œuvre, tant dans des activités, ne nécessitant pas de formation, ou bien dans des activités hautement qualifiées. On a besoin de médecins. Certains sont, souhaitent entrer en France, et pour le moment ont des difficultés à le faire. Je pense qu'on pourrait réaliser, enfin disons un petit peu évoquer notre réflexion sur ce que l'on appelle le thème de notre démocratie doit être économique et sociale.
Mmh. Mais je reviens un petit peu sur... On parlait de l'application du droit international. Le droit international, c'est l'article 1 de 1789, c'est l'article 1 de 1948, c'est constitutionnel. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout homme partage donc les mêmes droits, ce qui suppose aussi les mêmes devoirs. Mais les droits des uns ne peuvent pas s'opposer aux droits des autres. Parce que s'il y a des droits différents, si c'en est ainsi, alors il va y avoir de graves tensions à redouter. Par exemple, interrogeons-nous un instant. C'est quand même la France qui a colonisé l'Afrique du Nord. Et c'est une grande partie de l'Afrique noire. C'est la France, et ce sont des entreprises françaises qui ont fait appel à de nombreux Africains pour la production dans ces usines, et notamment dans les années 60-70, les usines automobiles. C'est ça qui explique, n'en déplaise à messieurs Zemmour, Le Pen et compagnie, c'est ça qui explique la venue et la présence de nombreuses personnes qui étaient originaires de ces pays et qui étaient de religion musulmane. Ceux qui aujourd'hui stigmatisent l'ensemble des musulmans risquent de créer du ressentiment. Ils risquent d'alimenter le communautarisme qu'ils dénoncent. Et pire, ils risquent d'aggraver les cas de radicalisation, voire le terrorisme.